Alors, bon matin à tous. Comme vous le savez, depuis déjà un certain temps, on est dans le livre de Marc. Et aujourd'hui, on va parler de l'incarnation, c'est-à-dire de comment Dieu s'est fait chair à travers Christ. On sait que Jésus n'était pas seulement homme, mais il était Dieu aussi. Mais avant qu'on entre dans le texte, prenons un moment pour nous recueillir et pour vraiment inviter le Saint-Esprit à nous parler à chacun d'entre nous de manière individuelle. Dieu puissant, nous venons devant toi ce matin, tels que nous sommes, Seigneur, avec nos faiblesses, avec notre fatigue, avec nos tracas. Et Seigneur, on te demande que ton Saint-Esprit puisse nous aider à mettre de côté toutes ces préoccupations-là, toutes ces distractions-là, afin qu'on puisse entendre ta voix, ce que toi tu veux nous dire à nous comme Église, mais aussi individuellement à travers ta parole. Oui, Seigneur, ce matin, rends-nous réceptifs, et c'est en ton nom puissant que nous te prions. Amen. Alors, si certains d'entre vous êtes familiers avec le livre de Marc, vous devez vous dire en ce moment, pourquoi avoir choisi Marc pour nous parler de l'incarnation de Jésus? Marc ne nous parle pas de l'ange qui apparaît à Marie. Il ne nous parle pas de l'ange qui se présente au berger. Il ne nous présente pas Jésus dans la crèche ou le voyage de Marie et de Joseph. En fait, Marc saute complètement l'enfance de Jésus ou l'arrivée de Jésus pour directement entrer dans le vif du sujet. Ce matin, je veux vous parler de comment Dieu s'est révélé, hein, comment Jésus a révélé qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était vraiment Dieu incarné. Mais on n'ira pas dans les textes traditionnels où on voit ça dans la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, entrons dans la parole de Dieu et allons lire notre texte de ce matin. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, c'est-à-dire Jésus, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu! » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire. Ils, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison. » En gros, il est fou. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Belzébul, qui est un autre mot pour Satan ou pour le diable. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Et donc Jésus leur explique que ça n'a pas vraiment de sens. Leur explication. Et le texte nous dit « Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur. » C'est ce qu'il disait de Jésus. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » Jésus est Dieu qui s'est fait chair. Mais jusqu'à présent, quand on arrive dans le chapitre 3 de Marc, on voit des réactions différentes à la personne de Jésus. D'abord, la famille de Jésus qui nous dira « Il a perdu la raison, allons le chercher! » Hein? C'est ce que le texte nous dit au début. La famille s'est dit « Il est devenu fou, on va aller le chercher! » Il y a les spécialistes de la loi, donc les scribes, les pharisiens, ces gens qui connaissaient beaucoup la parole de Dieu et qui en sont venus à la conclusion de dire, ben, il est possédé. Il y a en lui un Belzébul, c'est par le prince des démons qui fait ce qu'il fait. Il y a un esprit impur. Et étrangement, ceux qui semblent être les héros dans l'histoire et avoir catché qu'est-ce qui se passe ou avoir compris, c'est les démons. Ils disent, c'est le Fils de Dieu. Un peu drôle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on pourrait bien apprendre de ça ce matin? J'aimerais vous présenter ce qui est, à mon avis, le travail avec beaucoup de sagesse de Marc. Marc nous parle de la révélation graduelle de la nature divine de Jésus. Comment Jésus s'est lui-même révélé. Donc, comment lui, il s'est révélé aux gens qui étaient autour de lui de manière graduelle, avec beaucoup de douceur. Si on devait résumer les chapitres précédents de Marc, voici ce qu'on verrait. Marc, et vous pourrez retourner lire les textes si vous le désirez, le PowerPoint va être sur le site de l'Église. Donc, Marc nous a déjà dit que Jésus, c'est celui qui avait été annoncé, hein, qui précède Jean-Baptiste, qui est plus grand que Jean-Baptiste et qui va baptiser du Saint-Esprit. Il nous a déjà dit que Jésus, c'est celui qui annonce qu'on a besoin de croire et de se repentir, que Jésus est l'enseignant qu'on doit suivre, qu'il est celui qui délivre des esprits mauvais et à qui les esprits mauvais doivent obéir. Alors, les pharisiens ou les spécialistes de la loi avaient compris ça, ils n'avaient juste pas compris c'était pourquoi qu'ils devaient lui obéir, hein? C'était pas parce qu'il était possédé ou parce qu'il servait Satan, mais c'est parce que c'était Dieu lui-même. Marc nous a déjà dit, avant qu'on arrive à ce texte-là, que Jésus est celui qui guérit. C'est celui qui, ma foi, pardonne les péchés, c'est pas une petite chose. C'est celui qui appelle les pécheurs. C'est l'époux qui rend le jeûne temporairement superflu. Et c'est lui qui a l'autorité d'interpréter la loi et donc la volonté divine. Ce que nous voyons ici, c'est que Jésus invite sa famille, ses disciples, les spécialistes de la loi et le peuple à se tourner vers ce qu'ils connaissent déjà de Dieu pour comprendre qu'il affirme être Dieu à travers ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc, il s'attend un peu à ce que les gens comprennent et mettent les morceaux de casse-tête ensemble pour dire « Attends un petit peu là, Jésus, il guérit, Jésus, il a l'autorité sur les démons, Jésus, il pardonne les péchés, Jésus, il appelle les pécheurs à la repentance. Attends un petit peu, Jésus est plus grand que Jean-Baptiste, qui est un prophète, qu'on sait qu'il est un prophète. Attends un petit peu là, si on met tous ces morceaux de casse-tête-là ensemble, qu'est-ce qu'on a? On a Dieu lui-même. » Et donc, Marc nous parle de comment Jésus révèle la nature divine, sa nature divine de manière graduelle. Et c'est un petit peu pour ça ce matin que je voulais vous parler d'un angle différent sur l'incarnation, hein, sur Jésus qui est Dieu incarné, et c'est la modestie aussi à travers laquelle Jésus s'est révélé. Il s'est révélé avec puissance et en même temps, il s'est révélé avec douceur. Et il y a quelque chose de paradoxal. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit ceci. Il dit, là j'ai essayé de le chanter pour vous, en n'étant pas trop timide. Ô toi qui d'un seul mot pouvais charmer le monde, tu te plus à cacher ta sagesse profonde, tu parus ignorant, ô Seigneur Tout-Puissant. Alors, il y a comme cette idée-là que Dieu aurait pu arriver avec ses grosses bottes puis faire « Hey guys, c'est moi, c'est Dieu ». Mais il a trouvé plaisir, il a trouvé un objectif où il y avait un but à le faire de manière modeste, de manière graduelle, même si ça voulait dire qu'il allait être incompris de certains. Méprisé peut-être, jugé. C'est quand même particulier, n'est-ce pas? Mais ça nous apprend quelque chose sur le caractère de Dieu et sur les méthodes qu'il utilise avec nous. Et donc, dans le cas des Juifs, hein, dans beaucoup de ces choses qu'on a vues qui résument le début, les deux premiers chapitres de Marc, il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament. Et là, j'en ai mis quelques-unes, on ne regardera pas tous les versets, mais hein, Dieu, par exemple, dans le livre d'Osée, il dit qu'il fait quoi? Il poursuit comme un époux, il poursuit ans à son épouse qui est infidèle. Le texte de Joël nous dit qu'il va déverser son esprit, hein? Et Jean-Baptiste nous dit que c'est lui qui va baptiser du Saint-Esprit. Alors là, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu ferait comme 1 plus 1 égale... Merci. Pas 4, là. Pas 5. Il n'y a pas d'hésitation, guys. 1 plus 1 égale... Merci. Et donc, c'est ça qui se passe ici. Et nous apprenons que croire est un processus. Ce n'est pas juste un événement. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont capables de vous raconter leur témoignage. Moi, je me souviens avoir raconté une dame, et cette dame-là, elle était atteinte d'Alzheimer, mais elle était une croyante, et elle pouvait toujours se souvenir d'une chose. C'est que le 1er juillet 1974, à 6h30, elle avait donné sa vie au Seigneur Jésus. Elle était capable d'identifier le moment où elle avait cru. Mais ce matin, je veux vous dire, il y a peut-être un moment significatif dans votre vie où vous avez mis votre foi en Jésus, mais derrière un moment significatif, il y a tout un processus. Et l'Évangile de Marc nous montre comment Jésus marche avec les gens durant ce processus-là. Nous voyons quelque chose de spécial. Jean-Baptiste a reçu une révélation de Dieu au baptême de Jésus. Il a reçu cette révélation-là que Jésus était le Fils de Dieu. Il s'est même exclamé, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde! » Et qu'est-ce qu'il fait quand il est en prison? Il envoie ses disciples pour dire, « Hey Jésus, c'est-tu toi qu'on attend? » Il a cru, mais il avait besoin de croire encore. Sa foi avait besoin de grandir. Il était un processus. Souvent, on pense au baptême de Jésus, qui était un événement, évidemment, il y avait d'autres gens au baptême de Jésus. Ce n'était pas juste lui, il y avait d'autres gens. Mais on pense que c'est un événement et que tout le monde a reçu la révélation, a vu la colombe, a entendu la voix du ciel. Et je ne suis pas certaine. Lorsqu'on lit le texte, on voit ceci. Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, je l'ai vu et j'atteste que c'est le Fils de Dieu. » Et le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il vit passer Jésus et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et là, les deux disciples l'entendent, son témoignage verbal, et le suivent. Donc, on ne sait pas exactement combien de gens ont entendu la voix du ciel qui déclare, « Voici que c'est le Fils de Dieu. » On ne sait pas combien de gens ont vu la colombe. On sait par contre que Jean-Baptiste l'a vu, l'a entendu, et en a témoigné. Marie, elle aussi, était dans un processus pour croire, pour comprendre. Marie a reçu la visite des anges, les bergers, les mages. On ne voit pas ça dans Marc, mais c'est arrivé quand même si Marc ne nous en parle pas. Elle a vu, elle a entendu la prophétie d'Élisabeth. Elle a entendu les rêves de Joseph. Mais elle aussi, semble-t-il, elle a été dans le doute en croyant que son fils était devenu fou, en disant « on va le ramener à la maison, là ». Elle était dans son processus de croire. La Bible nous dit qu'elle a gardé ces choses-là dans son cœur, les témoignages qu'elle avait reçus, mais elle était encore en processus pour croire et comprendre. Le peuple d'Israël, lui aussi, était dans un processus. Le peuple d'Israël dont les spécialistes de la loi font partie, ils ont eu besoin de beaucoup de signes et beaucoup d'enseignements pour arriver à mettre leur foi en Jésus. Et on voit Jésus, il prend le temps. Il a pris combien de temps avec les gens entre le début de son ministère et sa crucifixion? Est-ce qu'il y a des gens qui le savent? 3 ans? Quelqu'un dit plus? Quelqu'un dit moins? Non? Environ 3 ans, effectivement. Donc, Jésus a enseigné, il a fait beaucoup de miracles durant ce temps-là, n'est-ce pas? Et il y a des foules qui le suivaient. Ses disciples l'ont suivi pendant combien de temps? 3 ans. Et même à la fin, on disait, « Colline de Bin, ils ne sont pas très vite, ils n'ont pas compris. » Croire est un processus. Et Jésus a pris le temps de se révéler. Jésus a pris le temps. J'aimerais vous dire ce matin que les gens à qui on témoigne, les enfants qu'on cherche à élever dans la foi chrétienne, eux aussi, ils ont besoin de temps pour comprendre et pour croire. Et on croit souvent à plusieurs petites vérités avant d'arriver à la nouvelle naissance et à la maturité chrétienne. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire-là, mais j'ai cheminé avec un ami qui venait d'un arrière-plan musulman. Et cet ami-là, ça s'est fait tranquillement, son cheminement vers Jésus et pour lui de mettre sa foi en Jésus. Donc, tranquillement, ça a été, « Ah, tiens donc, quand j'entends une méditation biblique, on dirait que dans la journée ou le lendemain, il se passe quelque chose, puis c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Tiens donc, il y a quelque chose là. Ah, tiens donc, quand un ou une chrétienne prie pour moi, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Ah, tiens donc. Ah, ben finalement, j'apprends sur la Bible, puis peut-être que la Bible n'est pas corrompue finalement. Et tranquillement, plein de petits pas, jusqu'à ce qu'un jour, on se dise, oh, attends un petit peu, finalement, si je fais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait combien? C'est un peu mêlant, hein, n'est-ce pas? Non, mais quand on met les morceaux de casse-tête, on voit l'image complète. Et là, tout d'un coup, cette image-là complète, c'était, ben finalement, je suis un chrétien. Alors, Dieu a donné un rythme au processus par lequel les gens, hein, parce que nous aussi, aujourd'hui, on a besoin de réaliser que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair. Hein? Nous aussi, on a besoin de ce même processus-là que le peuple d'Israël a dû vivre. Hein? Dieu a donné un rythme à ce processus-là. Mais le texte nous dit quelque chose de spécial. Il nous dit, les démons disaient, « Hey, c'est le Fils de Dieu! » Ça, c'est comme quand vous voulez aller voir un film puis quelqu'un est comme, « Hey, je te donne le punch! » T'es comme, « Non, fais pas ça! » N'est-ce pas? Alors, les démons cherchent à voler le punch. Mais qu'est-ce qu'ils font aussi? Il semblerait qu'ils cherchent à interrompre le processus que Dieu a prévu pour révéler son incarnation. Ils cherchent à dévoiler qui Jésus est avant que les gens soient prêts à le reconnaître. Et vous me direz, bien, pourquoi c'est problématique, hein, s'ils disent la vérité? Bien, j'aimerais vous suggérer ce matin que c'est problématique parce qu'à la base, les démons, c'est des menteurs puis ils font peur. Je pense que si quelqu'un qui est menteur me disait la vérité, j'aurais tendance à croire que c'est un mensonge, n'est-ce pas? Alors, ils essaient de miner le travail que Jésus est en train de faire. Et ça, c'est un petit peu comme si quelqu'un vous disait que « Hey, Mélodie est rentrée chez vous, puis elle a mis quelque chose chez toi. » Puis là, peut-être vous diriez, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a empoisonné mon jus de pomme? Est-ce qu'elle a mis des caméras chez moi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle est rentrée chez moi? Mais peut-être que cette personne-là ne vous dirait pas que je suis rentrée chez vous avec la permission de votre épouse ou de votre époux, puis que j'ai laissé un cadeau à la maison. Voyez-vous, ce n'est pas tout à fait la même réaction qu'on pourrait avoir, n'est-ce pas? L'une est de crainte et l'autre est de reconnaissance. Alors, les démons communiquent quelque chose de vrai, mais avec une mauvaise intention. Jésus, pourtant, lui, il est prêt à marcher et à prendre le temps avec des incroyants. Pensez-y une minute. Quand Jésus a exercé son ministère, hein, il a pris le temps. Il n'a pas commencé à marcher avec les gens au moment où ils ont compris qu'il était Dieu, où ils ont mis leur foi en lui, mais il a commencé à marcher avec des gens sans nécessairement avoir la garantie qu'ils allaient croire en lui. Et la Bible nous montre que Judas, même s'il a marché, il n'est pas arrivé à la même espace que les autres disciples, par exemple, et beaucoup d'autres. Mais Jésus a été généreux. Il a marché avec les gens pour révéler sa nature divine. C'est en fait la quasi-totalité de son ministère. La seule exception, ça pourrait être le Jésus ressuscité, là. Et ça, c'est la fin de son ministère. C'est une infime petite partie. Frères et sœurs, est-ce que nous, on accepte de marcher avec des gens qui ne croient pas? Est-ce qu'on accepte de prendre le temps? Jésus l'a fait. En fait, si Jésus n'avait pas marché à nos côtés, à travers le Saint-Esprit, à travers des gens dans l'Église, à travers sa parole, on ne serait jamais devenus ses disciples. On avait besoin que Jésus se révèle à nous graduellement pour nous amener à ce moment où on pouvait finalement croire pleinement qu'il était le Fils de Dieu. On avait besoin, nous aussi, de ce processus-là, même si on n'est pas toujours capable de le reconnaître dans nos vies. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas capables, comme la dame dont je vous parlais, hein, qui est devenue chrétienne à cette heure-là, cette journée-là, cette date-là. Il y a des gens dans l'Église qui ne sont pas capables de dire « Voici le moment où j'ai finalement cru! » Mais ils sont capables de vous parler du processus. Ça m'a pris des années à comprendre le processus par lequel Dieu m'avait amenée à mon moment de foi. J'étais capable de vous dire, c'est ça le moment où j'ai mis ma foi en Jésus. Mais je ne comprenais pas vraiment le processus par lequel il m'avait fait passer. Frères et sœurs, c'est les deux. Il y a un moment où on croit et il y a un processus par lequel Dieu nous amène à passer. Et c'est un petit peu comme si Dieu gagnait notre cœur de manière graduelle. Hein? Alors, il nous révèle quelque chose et tout d'un coup, il y a un espace dans notre cœur qui est habité par lui. Et puis là, tout d'un coup, il nous révèle autre chose et il y a un autre espace dans notre cœur qui est habité par la vérité de Dieu. Et puis, graduellement, les choses avancent jusqu'à ce qu'il ait conquis complètement notre cœur, jusqu'à ce qu'on ait mis complètement notre foi en lui. Et frères et sœurs, oui, il y a un moment où on croit, où on est de nouveau, où on donne notre vie à Jésus. Mais le processus ne s'arrête pas avec la nouvelle naissance. Dieu continue à marcher avec nous. Jésus est celui qui marche avec les croyants et avec les incroyants. Et là, vous ne voyez pas, peut-être pas très bien sur l'écran, mais je vous donne juste des exemples. Hein. Parfois, avant la nouvelle naissance, peut-être qu'il serait représenté en rouge aussi, peut-être qu'on apprend. Sais-tu quoi? Je crois que les chrétiens sont bien intentionnés et intelligents. Hein, et cette petite vérité-là t'amène à être plus réceptif peut-être à ce que les chrétiens vont dire, témoigner. Peut-être après, on dira, « Ah, mais coudonc, je trouve que la foi chrétienne, c'est une belle religion, cette affaire-là. Hein, il y a des belles valeurs là-dedans. » Et tout d'un coup, il y a une autre partie de ton cœur qui est remplie de foi. Et tout d'un coup, « Ah, mais sais-tu quoi? La Bible, elle est remplie de sagesse, puis je pense qu'elle est vraie. » Et tout d'un coup, whoops, la foi qui sauve, la nouvelle naissance qui arrive. On donne sa vie à Jésus. Mais après ça, Jésus continue de cheminer avec nous. Et peut-être, il nous amènera à croire autre chose, comme par exemple, « Ah, ben là, finalement, je crois que l'Église, c'est ma famille spirituelle, donc je m'attache à l'Église. » Et peut-être après, « Ah, ben tu sais quoi, je crois que c'est important que je marche à tous les jours avec Jésus à travers des disciplines comme la prière, comme la lecture de la parole. Et après, peut-être viendra une autre chose qu'on croit. Ah, ben je crois que c'est important que j'apprenne à donner et à recevoir le pardon. » Donc, Jésus chemine avec nous. Et parfois, c'est un peu dans le désordre. Hein? Parfois, on a compris que, par exemple, l'Église, c'est notre famille spirituelle, puis on n'est pas encore né de nouveau, mais on veut s'attacher à cette famille-là. Et parfois, hein, on n'a pas compris totalement à quel point la Bible est remplie de sagesse. C'est juste après notre nouvelle naissance qu'on le comprend. Alors, ce processus-là, il n'est pas nécessairement linéaire, mais Jésus fait route avec nous, chacun d'entre nous individuellement. Frères et sœurs, si Jésus est prêt, a été prêt à marcher avec ses disciples pendant 3 ans, et avec le peuple d'Israël pour révéler qu'il était le Fils de Dieu. Si Jésus a été prêt à marcher avec moi, avec vous, qui sommes-nous pour dire « Moi, je ne serai pas prêt à marcher avec cette personne-là qui ne croit pas encore, qui n'est pas né de nouveau. On reflète la personne de Jésus, son caractère, son amour pour l'humanité, lorsqu'on accepte de faire route avec des gens qui, peut-être on ne sait pas, hein, peut-être c'est pas clair pour nous, est-ce que cette personne-là est née de nouveau ou elle n'est pas née de nouveau, est-ce que vraiment elle est arrivée à ce point-là de foi? Préoccupons-nous pas trop de ça. Autant que cette personne-là est sur un cheminement et je dois l'amener à mettre toute sa foi en Jésus. Pas juste pour le salut de son âme. Ça ne s'arrête pas là, les amis. Là. On continue à découvrir que Jésus est Dieu, même lorsqu'on est sauvé. Marchons comme Jésus marche avec nous. Acceptons que c'est un processus graduel. Ne cherchons pas à devancer les choses. Et ce matin, je veux terminer pour nous avec quelques conseils. J'appelle ça des petits conseils pour la route. Donc, vous les mettez dans votre poche, vous les regardez un petit peu durant la semaine et vous faites « Ouais, OK, il ne faut pas que j'oublie ça. » Un peu comme notre petite liste d'épicerie. Il ne faut pas que j'oublie ces petites choses-là. Recevez les doutes, les accusations et même les contre-arguments des gens avec bienveillance. Comprenez qu'ils ne comprennent pas. Moi, j'ai l'impression, quand je lis les évangiles, que Jésus en a reçu pas mal des accusations, des doutes, des contre-arguments, et qu'il a su comment les naviguer avec chaque personne. Jésus avait son objectif, hein? Il révélait sa nature divine, mais il l'a fait au milieu des doutes. Il l'a fait au milieu des accusations des gens. Il l'a fait avec les contre-arguments des gens. Je pense que Jésus, à quelque part, comprenait que ça faisait partie de la réalité de là où les gens étaient. Ce n'est pas un obstacle, les doutes, les accusations, les contre-arguments. C'est une opportunité. Une opportunité pour nous de révéler mieux qui est Jésus. Mon deuxième conseil pour la route ce matin, discernez donc qu'est-ce que la personne a besoin de recevoir pour donner une partie de plus de son cœur à Jésus. Je me souviens, j'ai fait, il y a plusieurs années, un voyage missionnaire. Donc, on allait dans différentes églises du Québec et ils nous avaient expliqué comment partager les 5 points principaux de l'Évangile. Et donc, tu sais, on parlait de Jésus, le jardin d'Éden, hein, Dieu a créé le monde parfait, et puis ensuite est arrivé le péché. Et on se rendait comme ça là, pour résumer la Bible en 5 points. Et là, c'était comme, essaye de faire ça avec les gens, essaye de garder leur attention là, pour leur donner les 5 points. Et vite, je me suis rendu compte que ça me sert à quoi de me rendre au 5e point si la personne, elle a plein de questions, plein d'interrogations, plein de contre-arguments avec juste le fait que Dieu a créé l'être humain bon, avec un bon objectif. Discerner qu'est-ce que la personne a besoin de croire, où elle a besoin de cheminer, quelle partie de son cœur, et pouvez me demander, Seigneur, quelle partie du cœur de cette personne-là tu es en train de vouloir gagner? Et comment est-ce que je peux contribuer à ton œuvre, à l'œuvre de ton Saint-Esprit dans la vie de cette personne-là pour l'amener à se rapprocher de toi, pour l'amener à mettre sa foi en toi? Résister à la tentation de révéler à la personne plus que ce qu'elle est capable de comprendre ou de recevoir par rapport à Jésus. Parfois, on veut aller vite. Et on crée ce que j'aime appeler des indigestions spirituelles. Je me souviens au début, quand j'étais un petit peu plus jeune, je témoignais aux gens. Puis je me souviens d'avoir témoigné à une personne, puis la personne avait un intérêt pour les choses de Dieu. Puis là, je lui parlais. Puis à un moment donné, elle me dit, « Là, tu m'en donnes trop, là, j'en ai comme trop, là, je suis comme, tu parles trop, je suis pas capable d'assimiler tout. » Et là, je me suis dit, « Ouais, il y a comme un problème. Moi, j'ai tout assimilé déjà ça, ces éléments de foi-là. Je suis capable d'avoir cette nourriture-là un peu plus solide. Mais cette personne-là, elle n'est pas capable. » Alors, ça la bouleverse. Comment est-ce que je peux faire route avec la personne? Parfois, on le fait de d'autres manières aussi. Je me souviens d'avoir amené à l'église, il y a plusieurs années, un ami qui avait décidé de mettre sa foi en Jésus, ou du moins qui avait un bon intérêt. C'était pas clair aussi où est-ce qu'il se situait. Et je me souviens, un vieux monsieur dans l'église va voir cet ami-là qui est vraiment intéressé à Jésus. Et là, tout d'un coup, il lui expliquait toutes les choses qu'il ne pouvait plus faire parce que c'était un chrétien. Et il y a bien des choses dans cette liste-là qui n'étaient pas claires pour moi non plus parce qu'ils ne sont pas dans la Bible. Mais là, il était comme « Ah! Mais j'ai déjà tellement fait de pas de foi! Je suis pas capable de faire tout ce que ce monsieur-là me demande! » Résistons à vouloir faire parfois le rôle du Saint-Esprit dans la vie des gens. Hein? On travaille avec le Saint-Esprit, pas à la place du Saint-Esprit. Hein? Avec et non pas à la place de. C'est lui le boss, là. C'est pas nous. Et finalement, je ne peux pas le redire assez. Accepter de cheminer avec l'autre avec patience, comme Jésus l'a fait lorsqu'il s'est révélé étant Dieu lui-même. Si Jésus a pris 3 ans, vous devriez en prendre au minimum 3. Peut-être plus, parce qu'on n'est pas Jésus, tu sais. Soyez prêts. Soyez disponibles. Jésus qui, d'un seul mot, hein, il pouvait venir direct sur le nuage, là, avec les éclairs, le tonnerre, tout le gros kit. Je vous assure qu'au ciel, il y a un système de son pas mal meilleur qu'à l'Oasis. Il y a des effets spéciaux, les amis. Wouh, 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 wouh. Jésus pouvait venir avec les effets spéciaux, il ne l'a pas fait. Il pouvait mettre les gens au pied du mur et dire « C'est là que tu crois que je suis le Fils de Dieu! » Il ne l'a pas fait. Combien nous avons besoin de garder un cœur humble lorsqu'on partage l'Évangile? Comment on a besoin de se soumettre au Saint-Esprit? De démontrer du respect aussi pour le processus de l'autre personne? Si ce n'est pas que vous l'aimez, comment est-ce qu'elle va savoir que Dieu l'aime? Moi, j'aurais aimé que cette personne-là puisse manger plus de nourriture spirituelle. Elle n'était pas capable! Il a fallu que j'accepte. Frères et sœurs, courbons notre tête et prions. Je vous invite à peut-être prendre une minute aussi pour demander à Jésus, est-ce qu'il y a une personne autour de moi à qui tu aimerais que je témoigne avec beaucoup de patience, avec une approche qui est un peu comme ça. Donne-moi ta patience, ton humilité aussi, dans la révélation de qu'est-ce que je connais déjà de toi. Moi, Seigneur, je suis privilégiée de déjà comprendre toutes ces choses-là, d'avoir mis ma foi en Jésus. Donne-moi de ne pas utiliser mon privilège pour dominer, écraser, brusquer les gens qui ne te connaissent pas. Prions. Seigneur, tu connais ces personnes, Seigneur, que tu as mis sur ma route, sur notre route, ou que tu mettras sur notre chemin, qui a besoin, Seigneur, de croire plus en toi, de comprendre que tu es Dieu incarné. Seigneur, nous te demandons pardon ce matin pour toutes les fois où nous avons tenté de brusquer les gens. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas été à l'écoute de ton Saint-Esprit. Pardon, Seigneur, pour parfois notre arrogance même dans notre manière de partager notre foi. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'avoir le même cœur que toi, tu avais. Cette disposition-là à marcher avec les gens. Donne-nous, Seigneur Dieu, de bâtir notre témoignage sur ta parole, oui, mais aussi de le contextualiser à ce que les gens connaissent déjà. Donne-nous, Seigneur, de valoriser le travail que tu as déjà fait dans leur cœur. Et aide-nous nous-mêmes à grandir avec toi. Merci, Jésus, parce que tu marches avec les croyants et avec les incroyants. Merci pour ton désir de te révéler. Sois béni, Jésus. Amen.